Retrouvez toutes vos émissions préférées en podcast en téléchargeant dès à présent l'application Mon Paris FM sur Apple Store ou Play Store. Radiophoniquement.
Mon Paris FM.
Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans Raconte ta parentalité. À chaque émission, chaque épisode, je recevrai un parent, un couple ou un jeune qui viendra se raconter à travers sa parentalité ou son modèle éducatif. C'est la partie 2 avec Fanny. Comment tu vas, Fanny ?
Ça va.
Écoute, là, sur cette deuxième partie, l'idée, c'était d'aborder un petit peu ce fléau qui est en train de grandir et qui crée un mal-être profond chez les jeunes autour de la phobie scolaire. Donc si tu veux bien, on va là davantage se consacrer sur ta scolarité, ce qui s'est joué et ce qui fait que tu en es sortie. On va essayer aussi de se questionner sur quels ont pu être les éléments, les facteurs, mais aussi comment ça a été pris en charge, comment c'est compris et accompagné. Alors, est-ce que tu veux bien nous redire quel âge tu as, en quelle classe tu es ? Et on va reprendre un petit peu le fil de la scolarité jusqu'à arriver à ce moment où tu décroches.
Ok. Donc, Fanny, 17 ans, en terminale, en Normandie, terminale générale.
Ok.
Et voilà.
Donc, tu es sur un cursus classique. Aujourd'hui, tu vas au lycée.
Ouais.
Tu passeras ton examen en candidat libre ou bien en voie classique ?
En voie classique.
D'accord, parce qu'il me semble que tu suis aussi les cours...
Avec le CNED, ouais.
À distance.
Ouais, c'est ça.
On va y arriver. On commence l'entrée à l'école. Est-ce que tu te souviens un petit peu ou est-ce qu'on t'a raconté la maternelle ? Comment ça s'est passé ?
Eh bien, de ce que je me souviens, la maternelle, c'était très chouette. D'ailleurs, j'y suis retournée il n'y a pas longtemps pour visiter. C'était très marrant. Mais ce que je me souviens de la maternelle, c'est que ma prof de grande section a convoqué mes parents pour leur dire qu'il fallait que je saute une classe.
Okay.
Pour leur dire qu'elle sentait en moi un certain décalage avec les autres, pas forcément intellectuel, mais surtout dans la manière de se comporter, d'agir, etc. Et qu'elle sentait que... j'avais ma place dans une classe supérieure, chose que sur laquelle mon professeur de CP n'est jamais revenu.
D'accord.
Ça a été complètement mis de côté.
De côté. Donc ça veut dire que ton professeur de CP, lui, en tout cas, dans l'année que tu as traversée, que tu as parcourue à ses côtés, il n'a pas senti un décalage ou la nécessité de te faire sauter cette classe.
Ou alors il n'a pas fait gaffe.
Ou il n'a pas fait gaffe. Aujourd'hui... tu penses que ça a un impact et que cette classe sautée aurait pu être utile ?
Oui, parce que je pars du principe que j'ai toujours été avec des gens plus grands que moi. Dans mes copains, c'était toujours les classes d'au-dessus. Dans ma vie, même encore aujourd'hui, majoritairement, mes copains, c'est des
plus grands.
Plus grands, en fait. J'ai toujours eu cette... en fait, j'étais beaucoup plus en phase avec des gens qui étaient plus grands que moi. Et donc, je pense que ça aurait facilité... mon entrée au collège puis au lycée.
En plus, tu es une excellente élève, tu travailles très bien. Donc, tu fais ton année, ta maternelle, ensuite tu arrives en primaire. Comment ça se passe pour toi en tant qu'élève en primaire ? Est-ce que ça se passe bien ? Le rapport aux autres, le rapport au maître, comment ça se passe ?
Ça se passe bien, la primaire, ça se passe bien. Je développe toujours autant ce besoin de solitude, de m'écarter du groupe. Parce que je trouve pas de personnes qui me correspondent, etc. Je cherche, je trouve pas, etc. Ça se passe. Mais ça se passe bien, parce que scolairement, ça va, c'est la primaire, ça va. Et je m'adapte. Je fais un peu taire cette partie de moi qui essaye de chercher un peu plus grand, etc. Mais ça marche, parce que je m'adapte bien. Au bout d'un moment, je me fais quelques copines. Je pense notamment à quand j'étais à Courbevoie et où j'avais mes deux super copines, Elisabeth et Karine, si jamais un jour vous écoutez. J'ai réussi quand même à me trouver des amis. Mais je pense que c'était aux dépens de mon comportement, en fait, de mettre de côté la vraie Fanny de laisser agir la Fanny plus enfantine et plus adéquate.
Ok. En primaire, tu le vis comment ça, ce truc de savoir au fond de toi que après le CE2, puisque tu déménages, donc t'es plus avec tes deux super copines, comment on vit ce truc de se dire moi je trouve pas ma meilleure copine quoi, moi
je trouve pas mes meilleures copines parce que pour moi c'est en fait faut tout recommencer. Faut se réadapter à d'autres personnes de ton âge. Il faut les recomprendre, il faut les réanalyser parce que j'étais très observatrice. J'avais ce besoin de comprendre qui était qui, comment ils agissaient, etc. Pour me. Bah, en fait, c'était vraiment pour me cacher en fait, dans cette atmosphère d'une école. Pas... Enfin, voilà quoi.
C'est marrant parce que tu dis. Enfin, c'est marrant, mais c'est pas drôle. Mais tu dis de s'adapter. Comme si de rentrer en relation avec l'autre, c'était une adaptation. On ne peut pas être le vrai soi. Et en tout cas, toi, dans la façon dont tu le dis, moi, je l'entends, parce que peut-être que je me trompe, comme si je suis le vrai moi, si je suis le vrai Fanny, eh ben, ça ne va pas matcher.
C'est pas que ça ne va pas matcher, c'est que à ce moment-là, je savais que ça ne matchait pas.
Ok.
C'est vraiment une question de moment parce que maintenant je sais que avec n'importe qui,
vraie Fanny match.
C'est la match ou pas, mais c'est pas grave parce que maintenant je sais que je peux aller voir plus loin parce que c'est plus du tout bizarre. J'ai 17 ans, si je veux avoir des copains qui sont déjà dans les études, etc. C'est pas grave. J'ai assez de bon sens pour savoir que je peux être la vraie Fanny, mais quand j'étais plus jeune, c'était très compliqué parce que j'étais étrange pour eux. C'était un comportement qu'ils n'avaient pas l'habitude de connaître. C'était une intelligence différente, etc.
Qu'est-ce que tu appelles étrange? Tu te définirais comment qu'est-ce qui te paraissait différent des autres?
J'avais pas la même façon de réfléchir. Ouais. J'avais pas les mêmes centres d'intérêt, ouais. d'amusement, etc. J'étais très seule, en fait. Ça m'allait. Je pense que... Contrairement à ce que beaucoup pourraient dire par rapport à la solitude, moi, elle m'allait. Et fallait la bouger pour paraître comme quelqu'un d'autre avec des copains, etc. Et c'était...
Donc ça, c'est en primaire. Ensuite, tu arrives au collège. Là, comment se passe le rapport aux autres, le rapport aux profs?
Il se passe bien. À ce moment-là, je le vis bien. C'est qu'après que je comprends que c'était pas le cas, mais... À ce moment-là, je le vis bien, j'essaie de me faire des copains, je donne un peu tout ce que j'ai pour cacher la vraie Fanny et essayer d'être un peu plus rigolote, un peu plus, un peu plus problématique, je pense. D'avoir ce vrai côté problématique et pas que très éteinte, discrète parce que c'est pas être éteinte, mais ce côté d'avoir des problèmes, de faire un peu l'intéressante pour être remarquée, etc. Et par rapport aux profs, j'ai toujours eu de très bonnes relations avec mes professeurs. Enfin, j'étais vraiment bonne élève. Donc, j'avais pas cette difficulté envers les profs. La seule difficulté que je pouvais avoir envers les profs, c'était quand, justement, j'avais une note à laquelle ils ne s'attendaient pas négativement. Et où là, ils me rabâchaient. Hein, « Oh bah, t'aurais pu faire mieux alors que toute la classe a eu 3 et que moi, j'ai eu 14. »
Ouais, ouais. Donc, cette pression scolaire qu'on te met, cette pression d'excellence, qui va très vite te fatiguer d'ailleurs. Dans la première partie, tu dis que dans le rapport au père, déjà au collège, cette envie d'appartenir au groupe des populaires.
Ouais. Parce que j'ai cette envie de pas disparaître dans cette génération qui, moi, m'allait pas. Cette promotion-là qui me correspondait pas. Et j'avais besoin, en fait, du coup, de montrer que j'étais là et que j'étais parmi eux à la place de complètement m'éteindre.
Donc toi, tu fais le grand écart entre celui qui s'invisibilise et celui qu'on voit, qu'on adule, celui avec qui on a envie d'être, ceux qui sont cool.
Ouais.
Donc, le groupe de populaires que tu intègres, ce sont quoi? Ce sont les sportifs, ce sont les beaux gosses,
C'est les nanas qui se la pètent, c'est les jolies filles de l'époque. Enfin, c'est à ce moment-là où c'est les pestes, quoi.
Ouais, c'est les pestes de Sayuna.
Ouais, c'est ça. C'est les pestes.
Ok. Et les garçons, c'est un groupe mix ou de filles?
Ouais, il y a deux groupes, filles-garçons, et qui, du coup, ça se tourne autour.
Ouais.
C'est les amants du collège, etc. Moi, je me suis toujours très bien entendue avec des garçons, n'importe quel comportement j'avais.
Okay.
Donc,
puis arrive le lycée.
Arrive le lycée, donc ça se passe bien. Ma première année de lycée, du coup, ma seconde se passe bien. Et je ressens ce besoin de partir, d'aller ailleurs, de voir ailleurs, de connaître d'autres environs, etc. Et j'avais besoin de partir du cocon familial. Et donc, en deuxième année, je choisis de partir à l'internat.
Ok.
Et l'internat était très bien. Le lycée était très nul. Donc, un gros paradoxe entre un même établissement. Et ça m'a complètement anéanti. Je me souviens que ma phobie... Alors, maintenant, on ne dit pas vraiment phobie scolaire. On dit plus refus scolaire. Mais du coup, mon refus scolaire, il est... Et à mon avis, il s'est activé en milieu de seconde, quand j'en ai eu marre. Que voilà, c'est bon, j'étais devenue grande et qu'en fait, j'en avais marre. Et ça s'est accentué en première, quand j'ai eu mes épreuves de français et que ma prof de français était horrible. C'était
okay.
Quelqu'un d'abominable. Et tout le monde le disait, hein, vraiment, tout le monde était d'accord. Mais par contre, elle ne partait pas, elle était toujours là. Parce que c'était une bonne prof. Ses élèves réussissaient, mais enfin
à quel prix?
Oui, voilà. C'est moi, ça m'a fait périr en fait dans ma façon d'apprendre et dans ma façon de me comporter à l'école.
Donc toi, tu dirais que ce refus scolaire il vient s'installer progressivement à partir du milieu
Et il vient s'installer parce que je commence à en avoir marre de toujours être assise. De toujours être au lycée, etc. Parce que du coup, c'est ce que je disais, si j'avais sauté une classe, ma première, ça aurait été ma terminale. Et que de me dire qu'après, il me reste encore un an, c'est long. C'est très très long pour quelqu'un qui se sent pas à sa place. Autant d'années d'école, c'est très 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 long. Et c'est pas agréable. C'est pas du tout agréable.
Quels sont les premiers signes de ce mal-être que... C'est étrange parce que tu sens que t'es pas à ta place, ça y est, t'en as marre. En même temps, tu dis, déjà en seconde, j'en ai déjà marre, ça y est, je me considère comme grande, j'ai envie d'aller voir ailleurs, j'ai envie de voler en fait, de
ouais.
Découvrir. Comment tu perçois les premiers signes de ce refus scolaire? Comment ça s'installe, cette envie qui est plus forte de ne plus aller à l'école?
L'alimentation. Moi, ça a été mon déclenchement. Et mon point vraiment d'honneur sur comprendre qu'il y avait quelque chose qui allait pas. C'est parce que entre comprendre que j'aime pas l'école, que c'était pas, voilà, sachant que moi je l'ai très souvent dit, mais je pense que j'aurais dû choisir une autre filière que la générale, c'est juste que dans ma famille c'était tellement comme ça et pas autrement que c'était comme ça et pas autrement, mais que je pense que déjà c'était pas pour moi, et en plus ça n'allait pas. Donc j'ai arrêté de manger, et j'ai mangé petit à petit très très peu.
D'accord.
Et je suis tombée dans un réel cercle vicieux, et pourtant c'était pas par rapport à l'image de mon corps. C'était vraiment un manque d'appétit, j'étais rassasiée très vite, j'avais pas envie de manger, je mangeais pour vivre, mais je mangeais pas par plaisir ou tout ça, alors que j'étais plutôt gourmande quand j'étais petite.
Ce changement dans l'alimentation, il apparaît à tes 16 ans?
Il apparaît entre... oui, il apparaît à mes 16 ans.
Ok. Donc là, tu manges de moins en moins.
Ouais.
Mais tu tombes pas dans l'anorexie?
Partiellement.
Partiellement.
En fait, j'ai un sérieux... troubles du comportement alimentaire, et à mon avis j'étais en vrai sous-poids quand en février c'était vraiment très très compliqué. Et petit à petit, en fait, ça a été avec des pics. J'avais des pics d'anorexie et des pics où j'arrivais à remanger, etc. Mais j'ai fait de l'anorexie, certainement. C'était pas diagnostiqué parce que j'ai jamais pris en compte ces signaux-là. Je savais juste que ça m'arrivait. Mais encore aujourd'hui, là, si je devais te donner le dernier vrai repas que j'ai pris il n'y a pas très longtemps, à mon avis, c'est compliqué pour moi de te le donner.
Ça veut dire
Donc
que jusqu'à
c'est...
aujourd'hui, c'est pas rétabli
Ah non, pas
cette
du
notion
tout.
d'alimentation.
Non, non, pas du tout. Là, je vois bien que en 2 semaines, je perds 3 kilos, c'est compliqué, quoi.
Tes parents, ils remarquent ce refus de t'alimenter.
Ils remarquent oui et non, ils savent que j'ai du mal à manger, mais ils se doutent pas que c'est à ce point-là. Parce que, par exemple, je vais leur dire non, ouais, je mangerai plus tard ou je mangerai au lycée. Mais en fait, je sais que quand j'arrive au lycée, moi, je vais directement au cours et que je vais pas manger. Et donc, ils savent pas vraiment ce qui se passe du côté
Ils peuvent pas
alimentaire.
vraiment le voir.
Ils voient juste que je mange des petites quantités et que je mange globalement des légumes. Et pas de féculents, pas de protéines, pas de tout ça, parce que ça, j'ai du mal.
Et il s'inquiète pas.
Mon père s'est inquiété à un moment. Où il m'a dit, bah, du coup en février, il m'a dit, mais c'est pas possible, enfin, faut que tu manges quoi, il faut vraiment que tu manges. Et à mon anniversaire, j'étais hyper angoissée à l'idée que mon autre grand-mère, donc pas Mamélie, l'autre grand-mère qui s'appelle Manou, vienne à la maison parce qu'elle est du genre à remarquer
Les petits
les
détails.
petits détails et que.
Qui sont pas des petits détails d'ailleurs.
Non. Et qui. Et pour, elle n'a vraiment aucune gêne à dire, ah, qu'est-ce que t'as grossi ou oh là là, qu'est-ce que t'es maigre. Donc,
Elle vient.
elle vient et je me cache. Je me cache sous de gros vêtements, sous des, enfin, vraiment des vêtements. Elle peut pas voir.
Donc
C'est
tu
pas
es
possible.
conscient toi
Moi, je
de
sais
cette
déjà.
perte de poids,
Ouais. Ah, mais
etc.
bien sûr, moi, je le sais déjà.
Elle le remarque ou pas du coup?
Elle m'en parle pas.
D'accord.
Elle m'en parle pas et je l'ai pas revue depuis.
D'accord, donc du coup, elle a pas pu te secouer ou te
Ouais.
dire quoi que ce soit. Donc, il y a ce premier signe dont tu parles et dont beaucoup de jeunes aussi souffrent, le comportement alimentaire déviant, qui est un premier facteur, un signe. Aujourd'hui, c'est pris en charge
Non.
et tu comptes le faire? Ok, donc c'est important aussi, Fanny, parce que tu l'as dit. T'es quelqu'un de fort, t'es quelqu'un qui prend les choses à bras le corps, tu prends soin de ta santé mentale depuis un moment, tu t'es suivi, t'es accompagné, mais ta santé physique est aussi importante, ton enveloppe corporelle aussi est importante. Donc vraiment, je t'encourage et j'encourage les auditeurs à qui ça arrive. Et j'appuie peut-être sur les signaux d'alerte des parents aussi qui nous entendent sur justement ce que mettent nos enfants dans leur assiette et de pouvoir avoir des signaux d'alerte en se disant bah tu manges pas assez, peut-être une petite visite chez le médecin, etc. ou de trouver un espace de parole en tout cas où l'enfant va pouvoir délivrer le pourquoi il mange pas.
Et puis, ce qui est surtout très important, c'est de ne pas avoir de balance chez soi. Moi, je sais que la balance, c'est chez le médecin. Si je veux me peser, c'est chez le médecin. À la maison, c'est hors de question parce que sinon, ça fait très longtemps que je serais tombée dans ce cercle vicieux qui est affreux. Même si, pour moi, de mon côté, c'est pas une question de physique et de comment je me regarde, de comment je me trouve, etc. C'est vraiment un automatisme.
Mais du coup, quand tu vois ton poids baisser sur la balance, c'est comme si c'était le reflet de ton mal-être.
Ouais.
Donc, plus tu perds du poids, moins t'es bien.
Plus je perds. Non. Là, justement, moi, je fais une grande différence. Plus je perds du poids, plus je me rends compte que c'est parce que je prends soin de ma santé mentale et pas physique.
Ok.
C'est parce que je donne tellement tout, 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 tout sur mon mental que je sais qu'à un moment, il va falloir que je passe à la santé physique. C'est juste que pour le moment, je mets tout, tout, tout pour.
Ça te
Ok,
prend
je
trop
serai.
d'énergie.
Ouais, ok, je vais avoir de sérieux problèmes de santé peut-être à un moment. Mais il faut d'abord que je règle le mental.
Ça, t'en parles avec ton psychologue?
Oui et non. C'est un peu à moi, ça aussi, le fait que je mange ou pas, parce que personne ne peut me mettre la cuillère dans la bouche, donc...
Oui, c'est ça. Mais c'est intéressant et j'espère que tu auras cet échange aussi avec le psychologue avec lequel tu es plus à l'aise, parce que tu en suis deux, sur justement cette notion de ce rapport à la nourriture. Mais comme tu le conscientises, eh ben, peut-être que là, tu peux inverser la tendance, tu vois. Tu peux switcher et faire les deux. Et peut-être aussi verbaliser le fait que ce travail sur ton état émotionnel, sur cette partie psychologique, c'est tellement lourd, ça te prend tellement d'énergie que tu trouves pas l'énergie à autre chose, tu vois, à manger, à prendre soin de ton corps. Mais du coup, à quoi bon aller bien dans ta tête si ton corps ne supporte plus ta tête, tu vois? Si finalement, au moment où tu trouves cette sérénité d'esprit, eh ben ton corps, lui, il peut plus.
Oui.
Donc en fait, tu disparais finalement, dans l'un comme dans l'autre. Donc oui. J'attire juste un peu ton attention sur ça, même si je sais que c'est pas facile, mais vraiment garde en tête le fait que tu es dans la première partie, tu le dis aussi, je fais tout pour vivre et ne pas disparaître. Mais du coup, si tu fais pas attention, ton enveloppe corporelle, si tu l'alimentes pas, elle va disparaître.
Ouais.
Et c'est au moment où tu seras au top de ta forme psychique, t'auras envie de faire plein de trucs, que ton corps il te dira « Ah mais non ma cocotte, tu vas nulle part. Tu vois, t'as envie de faire un saut à l'élastique, eh ben non. » Donc prends vraiment le temps pour ça, on en parlera en antenne. Donc il y a l'aspect alimentaire. Ensuite, est-ce qu'il y a un autre signe qui te, au moment où ce refus scolaire s'installe, que tu perçois tout de suite?
La fatigue.
La fatigue.
Je dors tout le temps, la nuit, le jour, pendant les cours, à la place de manger. Je dors. Et ça, c'est le premier signe qui a alerté mes parents.
Ouais, et qui est aussi une conséquence de la sous-alimentation.
Oui.
Aussi. Donc là, ça alerte tes parents.
Là, c'est la première chose qui alerte mes parents, ouais.
Et qu'est-ce que tes parents font à ce moment-là?
Ils font rien, mais par contre, ça les alerte. Ils se disent, oula, ma fille est fatiguée. Pourquoi elle est fatiguée? Et eux, de leur côté, ils cherchent. Pourquoi? Mais moi, ils ne me voient pas tous les jours.
Mm.
Moi, ils ne savent pas que je dors tous les jours parce qu'ils ne me voient que le week-end. Donc, le week-end, ils peuvent se dire, ouais, elle est fatiguée parce qu'elle a une semaine de folie entre la révision, les cours, etc. Et du coup, là, elle se repose à la maison, mais ça met du temps pour un parent à comprendre que ma fille, elle est vraiment fatiguée parce qu'elle dort tout le temps. Et moi, je dors beaucoup trop.
Donc ils le voient, ils sont pas forcément dans l'action, mais en tout cas ils sont interpellés, ils te le disent.
Bah, c'est ce qu'ils m'ont dit après, ils m'ont dit le premier signe pour nous c'était la fatigue.
Ok, et à ce moment-là ils t'en parlent, ils te demandent pourquoi t'es fatiguée,
non.
Ou qui te trouve fatiguée, ils te le verbalisent, ou
non.
C'est un constat qu'ils font mais qu'ils gardent pour eux?
Non, c'est un constat qu'ils font et qu'ils gardent pour eux, et il y a un coup de fil du lycée qui va changer la donne pour... eux et pour moi et pour ma façon de fonctionner. Parce que moi, je justifiais mes propres absences. Donc, j'avais les codes de pronote de mes parents. Et donc, j'envoyais un message en disant, voilà, ma fille sera pas là aujourd'hui. Et vu que je suis très douée dans l'orthographe, c'était pas du tout...
C'était En tout cas, ça semblait être les propos d'un adulte, d'un parent. Donc ça passe, et à un moment donné, ça casse.
Et à un moment, ça casse.
Comment ça se passe?
Et à un moment, il y a quelqu'un qui reçoit... Il y a ma mère qui reçoit un message en disant « Oui, rappelez le lycée SVP. » Et ma mère appelle et elle se rend compte que, justement, là, il y a eu une absence qui est étonnante. Pourquoi je suis absente? Et après, à ce moment-là, tout se met en marche très très vite et tout le monde se dit ok mais attendez parce que là c'était aussi vous, ah non là c'était pas moi, où est mon enfant? Et c'est ce vrai truc de se dire où est ma fille?
Qu'est-ce qu'elle fait quand elle va pas à l'école en fait?
Ouais c'est ça, sachant qu'en fait je suis toujours restée à l'école mais je me planquais.
Donc t'allais à l'école?
Ouais parce que l'internat était dans l'école donc en fait je pouvais pas partir de l'école. Donc je restais à l'école et je me cachais parce que je n'avais pas envie d'aller en cours.
Mais du coup quand tu justifiais ton absence.
Oui, j'étais en mode rendez-vous chez le médecin.
C'est comme si tes parents étaient venus te chercher à l'internat le matin, t'emmener, etc.
Ouais, sachant qu'en plus, souvent, je faisais en sorte que ce soit sur un après-manger. Comme ça, tu sais, je vais au lycée le matin, ils me voient, je vais les voir en leur disant « Vous avez bien reçu le mail de ma mère ?»« Oui, oui, on l'a bien reçu, c'est bon, tu peux partir, etc. » Et je m'en vais, mais je m'en vais pas très loin.
L'internat, il est géré du coup par des adultes.
Ouais.
Et du coup, personne à l'internat ne constate ce bouleversement, ce changement,
non,
l'alimentation, les absences.
Pas du tout, parce que je suis extrêmement solaire et que du coup, personne ne remarque parce que j'ai toujours le sourire. J'ai les yeux qui pétillent, j'ai toujours le sourire et personne ne le voit.
Et personne ne voit non plus que tu t'alimentes pas?
Non.
Tu caches tout.
Ouais. Je cache tout parce qu'en fait, on me donne la même assiette à tout le monde. Et puis, il y a les techniques de faire des tout petits bouts pour faire de la purée de trucs pour les écarter. Enfin, il y a plein de techniques. Je vais pas en donner plus parce que sinon, je ne connais pas qui sont les auditeurs. Mais.
Bah, de toute façon, si, donne-en plus. Parce que du coup, ce sont aussi des conseils super précieux
Pour les parents.
pour les parents, les
Ouais.
adultes, les éducateurs. C'est-à-dire que nous, notre rôle, c'est quand même de veiller sur vous, de faire attention à votre santé mentale, mais aussi physique. Et du coup, le fait d'avoir des clés de lecture, j'ai il n'y a pas longtemps reçu un message d'une maman. Sa fille tombe dans l'anorexie et elle est complètement déboussolée, démunie. Elle ne sait même pas vers qui se tourner. Et on a des parents qui culpabilisent de ne pas voir, alors que, bah, comme tu l'as dit, vous êtes super doués pour cacher ce que vous n'avez pas envie de montrer. Mais du coup, c'est aussi donner des astuces et des conseils pour que les parents puissent déceler l'indécelable.
En fait, il faut savoir ce qu'on a donné dans l'assiette de notre enfant. On regarde bien ce qu'on lui donne. Et quitte à, au début, être complètement fou, et à partir du moment où on se rend compte qu'il y a un truc qui est bizarre, quitte à compter les pâtes qu'on met dans son assiette. C'est vraiment des trucs comme ça qui peuvent être complètement
Anodin, qui peuvent
anodins.
paraître
Ouais.
anodins.
Et en fait, on se rendra compte que quand on. Que l'enfant, il va prendre une pâte, la mettre dans sa bouche, mais en fait après il va faire semblant de mâcher, mais il n'y a rien dans sa bouche parce qu'en fait la pâte elle est toujours sur sa fourchette. Et il y a plein de techniques comme ça qui font qu'on a l'impression que notre enfant il mange et que juste bah, il y en avait trop pour lui alors qu'il n'a rien mangé.
Merci pour ça, Fanny, parce que c'est un vrai sujet. Et même si ça cache souvent un mal-être qui va devoir être travaillé, la première chose, c'est cette enveloppe corporelle, cette enveloppe charnelle. Et si le temps que je me rende compte que mon enfant va mal,
Mais l'enfant se
bah,
rend pas compte.
il
C'est
voilà.
ça aussi. C'est le fait que l'enfant se rend pas compte et que le parent se rendra peut-être compte avant l'enfant qu'il y a un réel problème.
Si tes parents s'étaient rendus compte de cette anorexie partielle qui se mettait en place, qu'est-ce qu'ils auraient pu faire selon toi? Ou qu'est-ce qu'ils auraient dû faire? Ou qu'est-ce qu'ils devraient faire?
À ce stade-là, on ne peut pas faire grand-chose. C'est vraiment encourager l'enfant à dépasser ça et aller parler. C'est un parent peut pas il peut adapter les repas. Il peut faire en sorte que sur une très 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 petite quantité, il y ait plein de fibres. Il y ait plein de trucs, etc. Moi, je sais que ma mère, elle est hyper douée pour ça. Mais que sur une toute petite quantité, il y ait plein d'apports différents, etc. Et il y a le fait de juste encourager son enfant à aller discuter, à comprendre pourquoi.
D'accord. Merci pour ce précieux conseil. Donc, tes parents commencent à remarquer cet état de fatigue et très rapidement, ça s'enchaîne parce que le lycée contacte tes parents.
Ouais.
On
Et à
comprend
partir de là,
que tu mens.
ils comprennent que ça va pas et ils
Ok.
comprennent qu'il faut faire quelque chose. Mes parents prennent rendez-vous avec la CPE de mon lycée et ça va très vite. On me donne une salle pour pouvoir me reposer quand j'ai pas envie d'y aller. J'ai juste à dire j'y vais et puis voilà, j'ai plus de justification. On ne comptabilise plus mes absences. Il n'y a plus rien qui se met en place. C'était déjà la fin de l'année, on pouvait pas m'inscrire au CNED, c'était trop compliqué, ça valait pas le coup. Et donc, on a juste fait ça
Adapté.
et on est adapté.
Tes parents, ils te punissent au départ.
Jamais.
C'est-à-dire que quand ils
Jamais.
apprennent que tu vas pas en cours, que tu signes à leur place, etc.,
Jamais.
ils te disent rien sur ça.
Ouais.
Et toi, ça te va?
Oui. Oui, parce que je sais que j'ai jamais été punie. J'ai jamais vraiment eu de punition, de. Voilà. Et je pense que c'est ce qui a permis, en fait, de me laisser faire ça, parce que je pense que j'en aurais jamais parlé. J'en aurais jamais parlé et j'aurais dû aller en cours. Et je serais allée en cours avec un mal-être insupportable.
Ça t'a ouvert une porte en fait,
Ouais.
le fait de remplir tes absences,
Ouais.
etc., en sachant pertinemment qu'au bout d'un moment ça va pas passer.
Ouais, mais j'avais envie que ça passe pas en plus. Il y a eu des moments où je me suis dit, purée, enfin, ça fait déjà 4 mois que je fais ça, c'est pas trop tôt, quoi.
Ok, donc il y a ce besoin, en fait, c'est des signaux d'alerte que t'envoies.
Ouais.
Et quand ils le savent.
C'est pour ça, regardez votre messagerie de Pronote, École Directe, tous ces trucs-là, parce que on peut aussi le mettre en sourdine d'un autre téléphone. tout ce qu'on peut supprimer, etc. Il faut vraiment avoir le réflexe d'aller regarder dans la messagerie, quoi.
Donc c'est un peu un piège, cette messagerie électronique, finalement, qui remplace le cahier de correspondance qu'on a connu d'antan. Donc, ceux qui remarquent en premier sont tes parents et le corps enseignant.
Ouais.
Toi, tu es bien accompagnée dans la mise en place de choses pour te permettre quand même de continuer à aller à l'école tout en puissant t'extraire.
Ouais.
À quel moment ça bascule alors? Parce que du coup, on peut s'imaginer que comme il y a des choses qui sont mises en place, comme il y a une adaptation, est-ce qu'il y a un suivi psychologique qui t'est proposé à cette période?
Ça a basculé avant qu'on mette tout ça en place.
D'accord.
C'est vraiment de se dire, à partir du moment où mes parents ont compris...
C'est des ancrés.
Même moi, là, je suis en train de comprendre certaines... Mais à partir du moment où mes parents ont compris, c'est là que la guérison s'est mise en place. Mais avant, c'était la catastrophe. C'était une catastrophe horrible et de se dire que vraiment, j'étais toute seule dans ma merde. Enfin, voilà, c'est...
Et c'est quoi cette merde? Est-ce que là, parce que tu nous as dit la prof de français, cette excellence qu'on attendait de toi, etc. Donc toi, ce refus scolaire, il s'installe vraiment parce qu'on te met trop la pression à
excéder? Il s'installe parce que je n'en peux plus d'un cadre où on est assis sur une chaise. C'est hyper lent, c'est du 8h-18h. Et en plus, après, à l'internat, il y a 3 heures d'études. C'est vraiment de se dire que c'est long et que pour un enfant, c'est pas normal.
Donc, pour toi, tout ce mal-être, il commence parce que finalement, l'école n'est pas adaptée à l'enfant.
Ouais.
En tout cas, il n'était pas adapté à l'enfant que toi, tu étais.
Moi, ouais. Ouais. Moi, c'était pas du tout pour moi. Et je m'en suis rendu compte bien trop tard parce que si là maintenant je pouvais remonter dans le temps avant de prendre une décision, mais c'est la voie professionnelle. Et j'espère sincèrement que la voie professionnelle va de plus en plus se développer pour proposer encore d'autres choses, de différents trucs, etc. pour que ce soit un peu adapté à tous les adolescents. Parce que le lycée général, mais c'est un enfer. Et c'est même pas spécialement un enfer parce que... t'es là-dedans, tu sais même pas ce que tu veux faire, tout le monde va faire ingénieur, alors qu'en fait personne va faire ingénieur, enfin voilà. T'as l'impression d'être l'espoir
de la société.
De la société, parce que t'as fait un lycée général, ce qui peut être plus prometteur pour certaines prépas, fac, etc. Et alors qu'en fait c'est pas du tout ça, parce que ça te rend malade dans la tête de te dire, ça fait 3 ans qu'on est assis tous les jours, 8h, 18h, avec certains... Pour certains lycées, moi je sais que c'est mon cas, j'ai 4 heures de DS par semaine, où c'est 4 heures à table, tu grattes, tu grattes, tu grattes, et puis après c'est fini, quoi.
Ça te bouffe.
Mais, et c'est juste que faut savoir faire des pauses, et faut savoir vraiment... il faut vraiment qu'on arrive à adapter cet emploi du temps qui est l'emploi du temps d'un enfant, qui est aussi l'emploi du temps d'un ado qui est en train de se développer, il a envie de faire du sport, il a envie d'écouter de la musique, il a envie de faire plein de trucs. Et en fait, on prend tout son temps par l'école et l'enfant ne peut plus développer que ce soit sa capacité à analyser des films ou des trucs comme ça. Il n'y a plus ça. Il n'y a plus le temps.
Donc toi, dans ton cas, c'est vraiment... pas le climat scolaire, les autres élèves, t'es pas victime de harcèlement, c'est vraiment l'inconfort de cette charge de travail, de cette lenteur, ces journées sans rythme.
Ouais.
Et en plus, par-dessus ça, toi qui excelles, une attente de toujours plus, comme si tu devais toujours exceller tout le temps dans tout.
Ouais. Et je pense que c'est un vrai problème, parce que même dans ma fratrie, mon frère qui là, bravo à lui, a réussi médecine et est maintenant en première année de kiné, j'ai l'impression que n'importe quelle étude que je peux faire, ça n'égalera pas un élève en médecine, alors que c'est complètement ridicule, quoi. Et c'est un vrai problème aussi maintenant que j'ai dans ma relation, parce qu'on en parlait en première partie avec mon frère et ma sœur, c'est le fait que j'aurais toujours l'impression qu'il est au-dessus. Tout ça parce que pour notre société, c'est les grandes études, les longues, les études hyper chères qui... Enfin, voilà quoi. Et après, les métiers les plus utiles, mais les moins réputés, c'est tout de suite mis à la trappe.
T'as dit précédemment, de toute façon, moi, dans ma famille, le choix de la voie professionnelle ne se posait même pas. Il n'y avait même pas de sujet. Ça veut dire que tes parents, en tout cas dans la façon dont on t'a éduqué, dès le début, le curseur sur l'éducation, les diplômes et les orientations, elles sont prédéfinies un peu?
C'est prédéfini, mais c'est hyper... c'est pas du tout volontaire de leur part. C'est que pour eux, en fait, je pense que même eux ne connaissaient que ça parce que eux, ils avaient dû faire un lycée général, une prépa, ensuite nanana. Et en fait, c'était le schéma qu'ils avaient eu. Et donc, pour un enfant, sachant qu'on était excellent, parce que dans ma fratrie, on a toujours eu une facilité inouïe dans l'école. Et en fait, pour eux, ils se sont dit, ben voilà.
Ouais, le schéma, il est tout tracé. Pourquoi tu veux en dévier?
Ouais, et c'est surtout qu'on en a jamais, on l'a jamais évoqué parce que général, et puis il n'y a même pas les autres.
Il n'y a pas les autres. Du coup, toi, quand tu dois faire tes vœux, est-ce que, parce qu'aujourd'hui, tu conscientises en disant si j'avais eu le choix, j'aurais choisi une voie professionnelle, mais est-ce qu'au moment où tu fais tes vœux, même toi, tu élimines la voie professionnelle comme n'étant pas une piste, ou déjà, tu te sens quand même attirée par...
Je me sens déjà. Je me dis...
T'hésites quand même.
Il y a un truc qui devrait marcher la voie professionnelle, mais je le cache tout de suite. Tout de suite, je l'enlève.
Tout de suite, tu l'enlèves, c'est pas une solution. C'est intéressant et merci aussi pour cette partie de ton témoignage parce que il y a beaucoup d'élèves, d'étudiants qui aujourd'hui s'orientent vers ces voies professionnalisantes parce qu'un cadre différent, parce que le fait d'avoir un pied dans le monde du travail en même temps de passer ton diplôme, etc. Ou d'autres parce qu'ils ne se reconnaissent plus dans le modèle éducation nationale, comme tu dis, avec des journées à rallonge, à apprendre, etc. Tu as de plus en plus d'enfants, de jeunes en tout cas, qui choisissent cette voie-là. Et de l'autre côté, pendant des années, on est parti du principe que les voies professionnalisantes, c'était pour ceux qui ne savaient pas étudier, qui n'étaient pas bons à l'école, c'était des voies de garage. Aujourd'hui, tu es un excellent exemple d'étudiant brillant qui excelle et pour autant qui se reconnaît et qui a besoin, qui aurait eu besoin en tout cas d'aller vers cette voie-là.
Ouais.
En première, du coup, se pose cette question de la rupture avec le système éducatif classique et tu rentres au CNED.
Oui.
Comment ça se passe? Comment se prend cette décision? Et pourquoi à ce moment-là tu suggères pas l'idée de basculer de ta première générale à une première professionnelle?
Parce que c'était pas possible. Dans le sens où moi je rentre au CNED qu'en terminale, et donc le temps que je me rende compte que le problème il vient de la voie générale, j'ai déjà fini ma première en fait.
Okay.
Et donc en fait quand j'arrive en terminale, c'était soit je me retape tout un lycée, et moi qui étais censée sauter une classe, refaire tout un lycée.
Non merci.
Non merci. Et donc en fait je décide juste de... Ouais, je vais faire à la maison.
Okay.
Je vais avancer à mon rythme.
Tes parents sont d'accord avec ça, tout de suite?
Ouais, ils sont d'accord avec ça parce qu'ils savent que j'ai encore quelques matières au lycée. Donc j'ai encore une interaction avec les autres, j'ai encore... Enfin, je suis pas qu'à la maison, quoi.
D'accord, donc toi, dans ton cas, c'est pas tout à fait... C'est pas que de l'école à distance, ouais. C'est un mix entre les deux, un compromis entre ton lycée.
Et c'est génial. En fait, c'est un peu comme si il y avait le matin... On était au lycée et que l'après-midi, on rentrait chez soi.
Ok.
On travaille encore, mais c'est pas pareil, quoi.
C'est pas pareil.
C'est rien à voir.
Et puis pour toi qui as un bagage intellectuel qui te permet d'engranger, ça te permet aussi d'alléger toi-même ton emploi du temps.
Ouais.
Donc, est-ce que toi, tu penses que ça, c'est une solution et que en France, on devrait faire plus confiance à notre jeunesse en se disant que c'est pas parce qu'ils sont moins souvent en classe qui ne peuvent pas engranger un savoir et travailler avec, peut-être pas pour tout le monde, mais travailler avec rigueur.
Je pense que ça, justement, on peut quand même s'en inquiéter parce que c'est compliqué de trouver la rigueur. Et, voilà. Mais par contre, je pense que c'est hyper important d'accueillir un cours spécialisées, enfin des formations où on permet de trouver quelle manière d'apprendre est la meilleure pour toi. Et ben voilà, et ben c'est comme ça alors que tu vas le mettre en place chez toi, etc. Mais parce que pour un gamin, on a toujours l'impression que c'est soit on recopie, soit on relit. Ça marche pas, ça. Ça marche pas pour tout le monde, en tout cas. Et donc l'enfant peut passer des heures sur sa feuille en train de lire ce qu'il a écrit et ne rien comprendre. Et il y en a un qui peut vraiment trouver sa technique directe et en 15 minutes, c'est plié.
On remarque que de plus en plus de jeunes en France ressentent un mal-être à l'école. Ouais. D'après toi, qu'est-ce qui pourrait expliquer cela?
Je pense que c'est aussi une façon d'exprimer qu'il y a quelque chose qui ne va pas en dehors de l'école aussi. C'est de se dire que là, c'est pas que l'école, c'est aussi toute la société par rapport à la jeunesse qui va commencer à poser un sérieux problème. Et ça se défoule sur l'école parce que c'est facile. C'est beaucoup plus simple que d'aller taper à la porte du président en leur disant « Bonjour monsieur, j'ai un problème. » Non, on envoie foutre ce qu'ils préfèrent.
Donc, du coup, toi, dans ton analyse, dans ce que tu viens de dire, c'est que ce mal-être sociétal qui pèse sur la jeunesse, sur nos jeunesses, elle se répercute à l'école parce que c'est plus facile. Et tu as dit sur ce qui est plus important pour eux, c'est-à-dire que tu as en tête que pour la société, l'école est importante.
Bien sûr.
Et que du coup, quand vous la retournez, et ben, vous espérez que les adultes se questionnent.
Ouais.
Est-ce que, selon toi, si là, tout de suite, tu étais ministre de l'Éducation nationale, qu'est-ce que tu proposerais pour améliorer, justement, cette école de la République?
Ça ne viendrait pas de moi, la proposition. J'ai absolument rien à proposer si j'étais ministre de l'Éducation nationale. Pourquoi, moi, j'irais proposer quelque chose alors que moi, je suis même pas au lycée?
Donc, pour toi, c'est quoi la proposition et la fin?
Il faut que ça vienne des jeunes et il faut que ça vienne de tous ensemble. Il faut pas qu'il y ait... Ça sert à rien d'interférer avec des personnes qui ont terminé les études, en fait, parce que eux, c'était comme ça à leur époque. Bah, désolé pour vous, quoi. Mais maintenant, moi, ça me va pas. Pourquoi ça me va pas? Qu'est-ce que je veux? Et c'est... Enfin...
Ça voudrait dire... tu connais... je crois que ça s'appelle... Je t'enverrai le lien. Il y a une étude qui est sortie sur justement le travail de confiance et justement cette question de la jeunesse. Aujourd'hui, il faudrait que nous, les adultes, on fasse plus confiance à cette jeunesse dans leur capacité de penser l'école. Mais la vraie question, c'est est-ce que la jeunesse, les jeunes d'aujourd'hui, sont capables de penser une école qui soit quand même instructive, positive et qui ne se transforme pas en centre de loisirs? Parce que c'est peut-être ça, la peur des adultes, c'est de se dire, mais quand on les écoute, on dirait qu'ils veulent qu'on mette des jeux vidéo dans les classes et que ça soit match de foot toute la journée, mais du coup, à quelle heure ils apprennent à lire et à compter? Parce qu'aujourd'hui, il y a un réel enjeu sur les apprentissages de base. Oui. Mathématiques et français, le niveau baisse crucialement. Tu y vois un lien avec cette école qui n'est pas adaptée?
Ouais, parce que la méthode d'apprentissage est restée hyper conservatrice, c'est pas du tout nouvelle. Et on est dans une société qui a évolué depuis les années 2000 absolument à une vitesse qui est limite pas croyable. Et on en est toujours au même point pour l'école, c'est-à-dire que c'est toujours la même manière d'apprendre. Maintenant, il y a le support visuel parce qu'on a, avec la technologie, etc., on a pu développer ça, mais...
C'est encore loin des attendus.
Et encore, C'est juste qu'on a essayé de mettre tellement de choses dans un emploi du temps d'un enfant que même un adulte, s'il était à la place d'un enfant, de faire tous les jours la même chose et c'est quelque chose qu'il n'aime pas.
On ne tiendrait pas.
Voilà, c'est un adulte dans un travail qu'il n'aime pas, il ne tient pas. Il finit par craquer. Il finit par faire un énorme burn-out, il finit par faire comme ça. Bah, c'est pareil. C'est le refus scolaire peut se...
C'est le burn-out,
c'est le
burn-out professionnel.
Des enfants.
C'est super pertinent ce que tu viens de dire. Et honnêtement, moi, je vois, ma fille, elle est au lycée, elle est en seconde. J'en ai une qui est en troisième et une qui est en cinquième. Alors, celles qui sont au collège, ça va. Même au niveau du rythme, etc. Je pense que, comme on dit, l'enfant, il s'adapte ou pas, mais elle s'adapte. Pour ma fille qui est en seconde, la charge de travail est souvent tous les soirs, c'est la même chose. c'était long. Donc j'entends ce que toi tu viens de ce que tu as témoigné, c'est long. C'est dur. Et en plus, le soir, on n'attend de rien. Et parce que j'ai des devoirs pendant 4 heures encore. Et du coup, quand j'ai fini mes devoirs, en fait, j'ai pas de vie. Heureusement qu'elles font beaucoup de sport et que ça leur permet de s'extraire. Mais du coup, dans ce que tu dis, même chez des enfants qui n'ont pas encore déclenché le burn-out dont tu parles ou ce refus scolaire, il y en a d'autres qui sont quand même mis à mal, qui le subissent parce que, comme une fatalité de toute façon. Et pour autant, tu as dit quelque chose de super juste, c'est que si moi, aujourd'hui, tu me demandais d'échanger ma place avec la tienne et d'aller m'asseoir sur les bancs de l'école.
Jamais.
De 8h à 18h, t'es sûr qu'au bout de 3 jours, c'est l'école buissonnière. Et en même temps, on vous impose d'y aller, on vous dit que c'est important pour vous, que c'est nécessaire, qu'on est tous passés par là, etc. Mais est-ce qu'on est, parce qu'on a tous eu cette expérience, on doit l'imposer à la nouvelle génération? La question que j'ai envie de te poser, c'est à quoi ressemblerait ton école idéale? À toi, Fanny.
Je pense que c'est une question qui est hyper compliquée parce que encore aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi l'école ne me convient pas. J'ai pas du tout toutes les réponses du pourquoi moi je me sens pas bien à l'école et pourquoi cette société ne me permet pas de me sentir bien à l'école. Et je pense que c'est réellement, je pense que mon école, mon lycée de rêve, mon école parfaite, c'est vraiment une école qui va être en accord avec tous les jeunes, tout ce que proposent les jeunes et pas seulement moi. Enfin, je pense que même si c'est... Et je pourrais pas donner un...
Si là, t'avais une baguette magique et que je te dis... voilà, t'es déjà dans le monde professionnel, d'accord? Et on est en train de penser l'école de demain. Quelles seraient les propositions qui émaneraient de toi?
Mais moi,
même
je
si
change,
c'est pas une proposition complète.
Je change certains cours. Je mets des cours de formation beaucoup plus technologique parce que maintenant, aujourd'hui, on se sert plus du tout de certains trucs. Et il faut qu'on... Enfin, des cours... de base, genre apprendre à faire des Google Docs, apprendre à faire des tout ce que tu veux, des fiches de paye, etc. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui nous intéresse, nous. Nous, quand on est plongé pendant les vacances dans des petits boulots, etc., on comprend rien. Et quand on arrive à 18 ans et que, bah oui, il faut se trouver un job parce que papa, maman, ils peuvent pas forcément payer toutes les études, etc., on arrive avec des documents, tu sais pas comment ça marche, faut qu'on fasse des cours de CV, faut qu'on fasse des cours de lettre de motivation, faut
donc
qu'on
ça,
fasse
ça
des cours
être
de
intégré.
Parcoursup. Et en fait, il faudrait que ça remplace certains cours qui ne soient absolument inutiles. Et en fait, ça devrait même remplacer dans le sens où un enfant peut travailler énormément si l'école lui plaît. Si jamais, par exemple, on avait cette chance de se plaire à l'école et de bosser à l'école, on aurait beaucoup moins de mal de le faire aussi à la maison. Et donc, si on prenait du temps scolaire pour mettre en place des cours qui sont importants pour les jeunes... Le soir à la maison, ce serait beaucoup moins pénible pour les jeunes de bosser des cours qu'ils aiment un petit peu moins.
Et du coup, sur l'orientation, parce qu'aujourd'hui, bah, c'est pareil, on vous demande de vous projeter dans une orientation, dans un métier, sachant qu'il y a beaucoup de turnover, il y a beaucoup de reconversions professionnelles. Est-ce que le fait d'explorer, de découvrir des métiers, ce genre de choses, c'est des choses aussi
Bien sûr.
Te semblent pertinentes?
Oui, carrément. Mais moi, même si je pouvais imaginer plusieurs sans de lycée, je pense qu'on pourrait faire un lycée multiprofessionnel où tous les mois, c'est une alternance différente. En fait, c'est, t'as une semaine de cours et puis après, les 3 autres semaines, t'es dans un tel métier. Et puis après, par contre, le mois d'après, c'est pas celui-là, c'est un autre. C'est un...
Pour que tu puisses expérimenter, explorer et après choisir.
Et découvrir. Il faut en fait découvrir. Pour, là, le choix qu'on nous demande de faire moi, en janvier sur Parcoursup, j'ai jamais rien connu d'autre que... la restauration, la plage, enfin voilà quoi, c'est l'animation, c'est tout. J'ai jamais été serrurier. C'est des trucs tout con, mais je connais pas.
C'est important ce que tu dis, surtout que je pense aussi qu'on est très impacté dans nos choix de vie professionnelle au contexte qui nous entoure.
Ouais.
C'est-à-dire que si je suis un enfant et que tu me demandes ce que je veux faire, je sais pas trop, mais du coup, j'ai l'impression que je peux je vais choisir dans déjà les métiers que je connais et ceux dont j'ai déjà entendu parler. Je peux pas me projeter vers un métier que j'ai pas dans mon paysage, dont je n'ai jamais, je sais même pas qu'il existe. Donc en fait, déjà le choix il est tronqué. Et c'est comme si en fait cet ascenseur social il est aussi très déséquilibré parce que tu sois issu d'une famille qui est précaire, dans la précarité, etc., ben l'enfant, lui, en fait, sa destinée, elle n'est pas figée. Sauf que, vu que dans son parcours professionnel, en tout cas dans son parcours scolaire, il n'a pas d'ouverture forcément sur ce qui va lui permettre de sortir, en tout cas, de cette tranche de la société. Et augmenter ses revenus et du coup pouvoir monter les échelles, c'est que il va faire ce qu'il y a autour de lui.
Ouais.
C'est très pertinent, tu vois, tu pourrais être ministre de l'Éducation nationale. Merci pour ça. Maintenant, j'aimerais, pour les 10 dernières minutes, qu'on se concentre sur justement, peut-être, toi, à travers ton expérience et à travers ce qui n'a pas été. Qu'est-ce que tu penses qu'il serait utile de proposer à des étudiants, des élèves qui, justement, déclenchent un refus scolaire dans les choses qui vous sont apportées? Parce que, quand même, dans ton témoignage, il y a beaucoup de choses qui ont été perçues. Mais tu l'as dit, quand les choses se mettent en place, c'est déjà trop tard, en fait. Ouais. Ça y est, j'arrive en terminale, etc. Donc, je l'ai subi, et de toute façon, cette scolarité qui a été un poison pour moi. Tu as aussi dit à plusieurs reprises... Ça a alerté, mais il n'y a pas forcément eu d'action en face de l'alerte. Qu'est-ce qui, pour toi, aurait été important d'avoir à ta disposition pendant justement ce parcours et cette difficulté? Ça peut être matériel, humain, psychologue scolaire, parce qu'on n'en a pas parlé, où était-il? La conseillère d'orientation dans ton établissement scolaire, ça pose la question de où est-ce qu'elle était? Les surveillants aussi qui t'ont pas vu alors que tu te clashais dans l'établissement scolaire. Mmh. Ça peut poser la question de la surveillance des temps de cours dans les couloirs, les toilettes, etc. Parce que si un enfant peut se rendre à l'école, se cacher et être invisible, eh ben, ça peut questionner. Quel outil et qu'est-ce que tu aurais pu trouver sur ton chemin qui aurait changé la donne, selon toi?
Je pense que l'infirmière scolaire, c'est bien. Bravo, merci d'avoir mis une infirmière scolaire parce que pour les petits bobos, etc., c'est cool. Mettez-nous une psychologue scolaire. Mmh. Mettez-nous un médecin scolaire formé.
Et présent.
Et présent, parce que moi, j'avais pas de conseillère de rotation. J'ai pas de psychologue scolaire ni médecin scolaire. Dans mon nouvel établissement, j'ai pas de CPE.
Okay.
Donc, c'est directement la direction, l'infirmière et les surveillants. Il n'y a pas de...
Donc voilà. La cellule, elle n'est pas complète.
Ouais.
D'accord. Donc, renforcement humain,
ouais,
de professionnels formés.
Je pense qu'un matériel... je ne pense pas trouver de matériel qui aurait pu m'aider.
Est-ce que dans ton établissement scolaire, il y a ces lieux où le jeune, en dehors de ses temps de cours, peut se poser?
Ouais, les foyers, etc.
Ok,
ouais.
T'en as un. Mm-hmm. Et du coup, qu'est-ce qu'il a manqué à cet endroit pour qu'il puisse être l'endroit où tu puisses déposer? Ça veut dire qu'on peut imaginer que s'il y a un lieu où les jeunes sont bien, qu'ils discutent, qu'ils peuvent déposer, qu'ils sont en confiance, ce jeune qui ne va pas bien dans sa scolarité, il va trouver un adulte à un moment donné.
Il manque des gens dans ce foyer parce qu'il y a des jeunes, mais il n'y a pas d'adultes.
Ok. Donc, il faut quand même la présence d'adultes formés aussi dans ces lieux. D'accord. Donc, on a dit peut-être... donc, on reste sur les moyens humains, finalement. En termes d'atelier et d'ouverture dans l'école, est-ce que tu trouves que peut-être là, il y a un levier d'ouvrir les portes de l'école à des associations, à des personnes qui peuvent proposer de la diversité, etc.? Tu penses que c'est une piste?
Bien sûr. C'est de donner la chance à un élève de trouver une cause qui lui tient à cœur. Mmh. Parce qu'on n'est pas du tout tous touchés par la même chose. Et c'est sympa par l'établissement, de faire une journée prévention harcèlement. C'est hyper intéressant et c'est hyper important, surtout, c'est obligatoire. Mais tous les élèves ne seront pas touchés de la même façon par ça. Il y a des élèves qui vont être beaucoup plus touchés par la précarité des autres. Il y en a, ça va être rien à voir. Ils vont être hyper attirés par tout ce qui est cinématographique. Et du coup, une association qui bosse sur ça, c'est génial. Enfin, il y a plein de trucs à faire. Mmh. Et ça, c'est beaucoup mieux qu'un professeur, en fait, qui est là juste pour t'enseigner ton truc sans...
Il faut déboussiérer l'école, quoi.
Ouais.
Si tu pouvais partager une leçon, un conseil avec un autre jeune ou avec un adulte, par rapport à ton expérience et ce que tu as vécu, qu'est-ce que ce serait?
Faut se battre. Là, faut se battre. C'est le moment de ouf. C'est maintenant. C'est pas après, parce que là, c'est là nos chiffres, ils montent de refus scolaire, etc. Les chiffres grimpent de plus en plus. Et il y a un moment où ça va baisser, parce qu'on va se rendre compte que ça marche pas. Et on va se rendre compte, en fait, juste que... Et par contre, c'est le nombre de suicides qui va augmenter à ce moment-là. Mais il faut se battre. Il faut pas abandonner, et il faut pas tout casser. Mauvaise idée, mais il faut se battre.
Ok. Y a-t-il quelque chose que tu aimerais dire aux personnes qui te soutiennent aujourd'hui ou qui t'ont soutenu dans ce parcours?
Merci. C'est tout.
C'est déjà beaucoup. Fanny, l'épisode arrive à son terme. Je te remercie vraiment pour l'authenticité, ta maturité, ton analyse. Et moi, si je pouvais partager quelque chose avec les auditeurs, mais surtout avec toi, c'est continuer à prendre soin de toi, mais fais-le pour de vrai. Ça veut dire que tu as tellement de choses à vivre, à découvrir, à faire. Et après, voilà, il y a des choses horribles qui te sont arrivées et tu as trouvé la force de dépasser ça. Donc du coup, tu peux tout dépasser à condition de le faire vraiment.
Ouais.
Et de ne pas faire semblant de travailler d'un côté pour lâcher de l'autre. C'est comme si, inévitablement, je vous fais encore croire que je veux aller bien, mais je continue à aller mal. Ta vie est précieuse, tu es précieuse. Et vous, cette génération, vous êtes très précieux. Et à nous, les adultes, de prendre notre part de responsabilité et d'arrêter de vous écraser avec... Des accusations, des choses qu'on fait peser sur vous alors que rien à voir. C'est à nous de dépoussiérer l'école et, comme tu l'as dit, d'impliquer vraiment les jeunes dans ces décisions et d'arrêter de faire semblant de les impliquer puisque, effectivement, on n'est pas à votre place. Tu l'avais dit dans la première partie, arrêtons de vous déposséder de votre vécu, de votre histoire, de vos douleurs, mais aussi de s'approprier vos réussites et votre talent. Et il est temps un peu qu'on se dise les choses. Merci beaucoup, Fanny. C'est le moment de se dire au revoir. Merci à toi d'avoir participé.
Merci à toi de m'avoir invité.
Je remercie mon Paris FM. Vous retrouverez cette émission de Raconte ta parentalité le vendredi soir. Vous pouvez nous retrouver aussi sur les réseaux et sur toutes les plateformes de téléchargement. Et ben, j'ai envie de vous dire ciao, à plus tard. Bye.
Bye.